Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers amis.
Ravi de vous retrouver Daniel dans le cadre de nos conversations hebdomadaires. Et aujourd'hui Daniel, on va parler avec vous de l'Iran et avec ce qui vient d'arriver d'ailleurs en Iran, puisque le gouvernement iranien vient d'appeler à la suppression de la police des mœurs. Alors Daniel, qu'est-ce que tout ça nous dit sur la situation en Iran justement?
Ça nous dit plusieurs choses. D'abord que la gouvernance de l'Iran est quand même très spécial, très spécifique. Et en fait, il y a une sorte de parallèle entre plusieurs pouvoirs. Et l'unité de pouvoir se fait par le Très-Haut, par le grand ayatollah, par ce pouvoir religieux qui domine tout le reste et qui fait les arbitrages. Mais dans la gestion quotidienne du gouvernement, il a peu de prise et donc beaucoup de choses peuvent arriver qui échappent à l'attention du gouvernement. Et il est probable que la dérive de la police des mœurs a échappé au contrôle de qui que ce soit. Et donc, on a ce sentiment qu'au fond, l'Iran est mal gouverné, n'est pas gouverné. Et c'est ce qui rend d'ailleurs très difficile les négociations avec l'Iran. On se demande toujours avec qui on négocie, puisque les négociateurs qu'on a en face de soi, souvent disent, bon, ben maintenant, il faut qu'on rentre et qu'on consulte le grand ayatollah, qui semble avoir le dernier mot. Donc voilà, ça, c'est le propre des régimes autoritaire, voire autocratique, c'est le pouvoir semble fort, mais en fait il y a une concurrence de plusieurs pouvoirs. Ça, c'est la première réponse qu'on peut voir. La deuxième, c'est que la réaction des pouvoirs autoritaires quand il y a des contestations, et là il y en a une sérieuse en Iran, c'est de d'abord réprimer et ensuite quand même de céder du terrain. Là, on voit quand même supprimer la police des mœurs, c'est quand même donner raison aux Iraniennes et au cas de cette malheureuse qui est morte parce qu'elle avait mal mis son foulard. On peut comparer cette situation à la Chine, où font les contestataires, ils sont en colère contre la politique de zéro Covid, pas plus, et le gouvernement a réprimé. Aujourd'hui, c'est très difficile pour les Chinois de s'exprimer. La troisième réponse qu'on peut faire, c'est que finalement, les pouvoirs autoritaires qui exercent des surveillances absolues sont toujours surpris par des choses qu'ils n'avaient pas attendues. Qui s'attendait à la colère des Chinois? Qui s'attendait à la colère des femmes? Même si elle avait déjà eu lieu dans le passé, hein, c'est pas la première fois. Donc finalement, les pouvoirs autoritaires sont toujours surpris. Et finalement, malgré tout leur pouvoir sur le peuple, ils restent vulnérables. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est qu'il y a des vulnérabilités, mais que ces vulnérabilités sont intérieurs et que finalement ce sont les peuples qui peuvent peut-être obtenir quelque chose. Voilà les quelques réponses qu'on peut faire à cette suppression de la police des mœurs.
Mais alors justement, maintenant qu'on vient de parler de tout ça, est-ce que ce ne serait pas le moment d'élargir un petit peu notre horizon et de faire le point sur la situation iranienne ainsi que sur ces fameuses négociations, Daniel, sur le nucléaire iranien?
Alors, l'Iran va très mal, la situation économique mondiale est mauvaise et la situation de l'Iran est très mauvaise, parce qu'ils ont en plus les sanctions et ils manquent d'argent. Donc, du coup, pour eux, la seule solution, ça reste l'acquisition de la bombe qui, pour elle est vitale. En fait, l'acquisition de la bombe par le pouvoir iranien, c'est pour protéger leur régime, pour perpétuer le régime. Là, on peut comparer ça à la Corée du Nord. La Corée du Nord a réussi finalement, en ayant la bombe, à perpétuer un régime complètement fou, que même la Chine, qui est un allié stratégique de la Corée du Nord, ne comprend pas, mais qui est obligée de soutenir. Donc on voit des pays qui sont capables de mettre leurs maigres ressources au service d'une bombe qui protège uniquement leur régime, qui probablement ne servira pas, et qui se fait aux dépens du bien-être de leur population. Mais en fait, ils se protègent de l'extérieur. Or, le danger vient de l'intérieur. Alors, en Iran, on le voit aujourd'hui. C'est vrai aussi peut-être pour la Chine. Le danger vient aussi de l'intérieur et c'est vrai aussi de la Russie. On attend que les mères des soldats morts commencent à prendre conscience qu'on leur ment, etc. Donc, conclusion de cette acquisition de bombes, ça nous protège des dangers extérieurs, mais pas des dangers intérieurs qui sont les vrais dangers. Et quant à la négociation elle-même, depuis le temps qu'elle dure et qu'elle n'aboutit pas, il est clair qu'elle n'aboutira jamais. puisque le temps passant, il n'y a plus rien à négocier. Et on peut vraiment se demander pourquoi tout le monde fait semblant de négocier. Les Occidentaux, comme les Chinois, comme les Russes, qui sont partis à la négociation, tous continuent de parler d'une négociation, alors que tout le monde sait qu'il n'y a rien à négocier. Et je crois que s'ils le font, c'est que ça permet de gagner du temps. Parce que si le jour où on viendra dire la négociation est arrêtée puisqu'il n'y a plus rien à négocier, se posera la question de l'alternative. Si on ne négocie pas diplomatiquement, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher l'Iran d'avoir la bombe? Puisque tout le monde en plus est d'accord pour dire qu'elle ne doit pas avoir la bombe. Et c'est ça, c'est une espèce d'abîme qui fait que on sait pas trop quoi faire. Or, la destruction des centres nucléaires iraniens est possible techniquement. Israël a parfaitement les moyens, les avions et les bombes qui sont des bombes pénétrantes, puisque les sites sont très souterrains. Je pense qu'Israël a la capacité technique de faire des frappes, même qu'on peut appeler chirurgicales. Par contre, Israël peut-il prendre ce risque sans soutien au moins de son propre camp, du camp occidental, américain, européen, et sachant que l'opinion internationale sera toujours contre Israël et contre l'agresseur. Et donc, on sait aussi que la riposte iranienne, elle viendra pas forcément de l'Iran, elle viendra peut-être du Hezbollah et du Hamas, qui veut dire que Israël devra mener un certain nombre d'opérations militaires sur plusieurs fronts, et que donc sans véritablement soutien américain, ils vont continuer à hésiter. Or, les Américains, aujourd'hui, on voit bien, vont beaucoup hésiter à être mis dans le camp de ce qu'on appellera les agresseurs, puisque finalement, si on fait une opération militaire, ça sera une agression, au moment où justement on reproche à Poutine d'être un agresseur, quelles que soient d'ailleurs les bonnes ou les mauvaises raisons qu'il a eues d'attaquer. Il est l'agresseur, donc il est le responsable principal.
Alors Daniel, on se rend compte tout de même que le problème, il est global. Pourtant, on n'a pas du tout abordé cette question iranienne pendant toutes les discussions et les rencontres diplomatiques qui ont eu lieu au mois de novembre et dont nous avons parlé dans nos conversations antérieures. Comment ça se fait?
Et vous avez raison, le problème iranien est global, mais comme il y a d'autres problèmes globaux, finalement, le problème iranien, il a une priorité assez basse dans le monde. La première priorité du monde, et on l'a vu à Bali, au G20, c'est la crise économique, c'est la crise climatique qui est également jointe à la crise économique. Hein, c'est le problème principal sur lequel, évidemment, tous les pays sont préoccupés. La deuxième, c'était de régler le problème de l'affrontement ou de la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Ça, c'était la priorité des priorités. On a vu que finalement, on est abouti à une sorte de modus vivendi et un accord entre les deux puissances pour pas aller trop loin. Et du coup, très difficile d'inclure l'Iran, parce qu'en plus, l'Iran fait partie évidemment de la confrontation entre les USA et la Chine, mais au fond, ni les États-Unis ni la Chine ne sont pressés de prendre position sur l'Iran. On l'a vu tout à l'heure pour les États-Unis. Pas pressé d'aider Israël. Quant à la Chine, elle n'est que de loin l'allié ou le partenaire de l'Iran. Le vrai partenaire local de l'Iran aujourd'hui, c'est la Russie. C'est là qu'il y a un accord militaire. C'est pas la Chine. La Chine, elle est contre la guerre. Elle va pas alimenter la guerre. Donc voilà, c'est une assez basse priorité. Et finalement, la conclusion de tout ça, c'est que très difficile de trouver des solutions, et là je reviens à la crise iranienne, de trouver une solution à une sorte d'impasse, et chacun attend que le miracle arrive. Tout le monde sait que pour l'Iran, avoir la bombe, ça sera très difficile à gérer, mais il faut s'y préparer, parce qu'une attaque sur l'Iran risque d'être pire encore. Je me souviens qu'Obama, quand on lui reprochait d'avoir signé en 2015 l'accord iranien, il disait: « Oui, j'ai bien compris, vous pensez que c'est un mauvais accord, vous avez de bonnes raisons de penser que c'est un mauvais accord, mais toutes les autres solutions sont pires encore ». Et on est ramené finalement à cette idée-là, qu'il y a ici un abcès qui n'est pas l'abcès principal du monde, et donc comme ça une basse priorité. Au fond, les grandes puissances sont pas pressées de le régler, et donc le risque est très grand d'avoir un Iran nucléaire, et l'Iran le sait tellement bien qu'il n'arrête pas de l'annoncer. Nous progressons, nous faisons ci, nous faisons là. C'est presque pas secret, les avancées de l'Iran. Ils sortent et ils nous narguent un peu en disant, voyez, nous avançons. Et qu'est-ce que vous faites? Sachant que agir aujourd'hui, c'est pire que de ne pas agir, mais ne pas agir, c'est nous retrouver avec un Iran nucléaire, dont Israël sera évidemment le premier angoissé pour la suite des opérations. Voilà, c'est un peu triste de conclure sur cette forme d'impasse, et chacun attend un miracle, le miracle étant peut-être un changement de régime par l'intérieur, mais on en est encore loin.
Merci beaucoup Daniel Haber pour tous ces éclairages. Comme chaque fois, on vous souhaite une très très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.